rêve. Étrange, hein, j'ai des restes chers, hein, je m'interroge. 32 ans, même plus trop le temps de me les branler. 2018, je suis le nouveau Charles Baudelaire. Dans ce game, je trifouille et toi ta petite château terne. Sur un château d'Axe, d'Akodak, c'est du tac au tac. Face trop crade et je te crache, on bat la quota. Nelrix soit à la prod, on nique la proc. Intrépide hardcore, et on en a marre de tout ce qui radote. Tire d'un mirador, t'as capté Bolos. C'est pas Chantal Goya, lèche-nous les bonbons. Tu verras que ça sent la goyave. Dans la gova à l'époque, ça se décalait. Des barres et des calquets rappés, des phrases un peu déphasées. À l'arrêt de bus de Saint-Estro Gang, ça c'est un Tesco que j'aime. Y'avait plein de phénomènes, aïe. C'est la connexion de Nelrix sur des crimes. Allez lever vos tillons, mes cyborgs écrivent. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. C'est la connexion de Nelrix sur des crimes. Allez lever vos tillons, mes cyborgs écrivent. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. Je vais finir en beauté sur ce troisième couplet. Allez-y, restez goûter, souper, ça va découper. Ça fait plus de 10 piges que j'ai fait péter la soupape. Et de mon passé, je suis coupable, m'en fous si tu valides ou pas. C'est vrai que j'ai fait 2-3 coups bas, serre un libre et coup bas. J'irai où y'a le bif et tout ça, j'espère, alléluia. Avant le mal était sans limite, c'était gratos. Ray, j'ai arpenté la street avec ma desperados. Mais là, c'est fini, j'ai mes marmots, calmos. J'ai cette macro, j'ai dans les péchés, barode. Je suis rodé mais obé, je vais m'occuper trop sputé. Je t'ai procuré l'OD, va dire ça au curé. Purée, je crois que tous les cauchemars ils t'ont cerné. Tu rêves de les fister, alors vas-y dors à point fermé. Fais bellec à ton réveil, oui on t'arnaque. Dans nos têtes la vie de rêve, à la Montana. C'est la connexion de Nelrix sur des crimes. Allez lever vos tillons, mes cyborgs écrivent. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. C'est la connexion de Nelrix sur des crimes. Allez lever vos tillons, mes cyborgs écrivent. Car c'est réciproque
et... Et messieurs, dames, bien le bonjour, 16h45, pétante, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour le Juste Bistrot numéro 601. Ça y est, on a passé la 600e, on enchaîne à toute vitesse, les amis. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous passez une bonne semaine. Voilà, mais oui, ça avance, le temps avance, le soleil est quasiment là. Ça y est, là c'est réglé, on est quasiment au printemps. Et ça, ça fait plaisir les copains. Salut à tous, salut à tout le monde qui s'installe. Hier, pas d'émission. Eh oui, je vois que ça râle déjà dans le chat de Twitch. Pas d'émission. Eh ben, je vais vous dire un truc qu'il faut pas dire. Mais j'avais pas envie. Et parfois dans la vie, il faut, je vous le dis, c'est les petits bonheurs. Quand je vous dis, il faut défendre ce qui nous fait plaisir. Eh ben, tu vois, hier, j'étais pas dedans. Et je peux pas faire une émission si je suis pas dedans. Et globalement, je peux rien faire si je suis pas dedans. J'arrêterai cette phrase ici. Donc, je me suis dit, je vais rentrer. Tu vois, je vais rentrer à la maison. Je me suis posé sur la terrasse 10 minutes. C'était super. C'était super, et là du coup, c'est le retour. C'est le retour, parce qu'aujourd'hui, plein banal, évidemment, ça arrive les amis, et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est chouette, il faut se préserver, je vous le dis, il faut que tout le monde le fasse, évidemment, évidemment, les copains. Aujourd'hui, on a, ça, c'est le menu, c'est n'importe quoi, Pokémon Go, les gilets jaunes, Burger King et le cinéma français. Faites une émission avec ça. Faites une émission avec ça. Donc, on va bricoler. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de sujets en réaction à cette actualité folle de partout. D'ailleurs, dites-moi pour attaquer l'émission, hein, tout le monde s'installe confortablement. Dites-moi s'il y a des sujets, des questions que vous avez. Voilà, n'hésitez pas, les amis. Merci à Fléau93 qui vient de Subprime, 34e mois. Merci beaucoup. VivilLulu68 qui dit « Ouf, j'avais peur d'avoir raté quelque chose alors que pour une fois ça m'arrangeait qu'il n'y ait pas eu de Juste Bistrot. » Eh ben t'inquiète, voilà, ça arrive, ça arrive. Blue Octopus 0608 dit « C'est qui ton Pokémon préféré ?» Moi c'est Delogu. C'est Delogu, il endort les gens en racontant des conneries, il est passionnant. Moi je l'adore. C'est Delogu Evolution Louis Boyard. Moi je l'adore. Je l'adore. Winey833 qui dit surtout que ça doit vider l'énergie. Non, ben ça arrive parfois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tétanos qui nous dit bonjour. Avez-vous vu le dérapage de Samuel Etienne? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? C'est la semaine dernière, il y avait une histoire de zigounette qui se promenait. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Alors, j'ai peut-être raté. Alors là, dites-moi s'il y a encore une affaire Samuel Etienne. C'est fou. Ça fait plaisir. Salut à Blodo sur YouTube qui dit bonjour Rémi. Je me suis laissé influencer par tes préconisations littéraire. J'ai acheté Pensée pour moi-même de Marc Aurèle. Bah, c'est chiant, il n'y a pas d'image. Déjà, c'est bien. Je suis content si ça va être un influenceur littéraire. Mais tu vas voir, avance gentiment, lis-le à ton rythme. Quand tu as envie, surtout, c'est le plus important. Et tu verras, je pense que c'est chouette. Je trouve ça très, très cool. Voilà. Bonne lecture en tout cas. Dites-moi d'ailleurs, les amis de partout, dans quel livre êtes-vous en ce moment? Voilà, on attaque avec ça. Parfois on attaque avec la cuisine, parfois on attaque avec des conneries. Là on attaque avec la littérature. Dites-moi un peu qui lit quoi en ce moment. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. À titre personnel, je suis. C'est peut-être pour ça que je suis fatigué aussi. Je suis dans Physique de la conscience de Philippe Guillemin. C'est peut-être pour ça qu'hier, j'ai pas fait d'émission, en vérité. Vous remercierez Philippe, parce que c'est vrai que c'est pas fastoche. Hein. Moi, je me suis arrêté à Martine à la plage, Martine en Bretagne, Martine Aubry. Donc là, on a passé un cap. Hein. Là, on a passé un cap, j'avance doucement, mais sûrement. Alors, dans les lectures, Yaïk La 15 qui dit « Moi, je suis sur la boîte de Pandore, donc de Bernard Werber, après avoir lu La prophétie des abeilles. Eh ben, j'espère que tu passes un bon moment. Je me suis régalé avec La boîte de Pandore. » Il y a Team Peak 29 qui dit « Incroyable. Moi aussi, j'ai acheté Pensée pour moi-même et j'ai adoré. J'ai donc enchaîné avec Brièveté de la vie de Sénèque que tu avais proposé. » Bon, alors là, vous me régalez, les amis. Je suis très content. Si les conseils de lecture vous plaisent, ça fait plaisir. Cuilez-moi Airfryer qui dit « Arendt, les origines du totalitarisme. » Ça, c'est intéressant. Et t'as aussi La crise de la culture. Si je dis pas de conneries, oui, d'Anna Arendt, qui est très chouette. Si vous avez l'occasion pour entrer dans la philosophie d'Anna Arendt, on en parle beaucoup sous l'angle de la banalité du mal, mais elle a écrit des textes très intéressants, vraiment. Dimkop qui nous dit « Nous autres » de Zamiatine. Je ne connais pas. C'est chouette parce qu'il y a plein de titres. Qu'une d'une 73, j'ai attaqué la tétralogie des 30 Glorieuses de Pierre Lemaître. Il porte bien son nom et je m'y suis pas risqué encore. J'ai à peine fini la trilogie là, avec Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie et je sais plus quel est le dernier. Je sais plus. J'hésite à aller dans la nouvelle, là. La nouvelle tétralogie. Dites-moi si ça vous plaît. Voilà. Si vous avez des bons retours, j'hésite à y aller. J'aime beaucoup Pierre Lemaître, mais j'ai un peu moins accroché le dernier. Attends, c'est. Attends, Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie. Bon, je sais plus. Bon, c'est pas très grave. Slimounet qui dit Philippe Guillemin, très intéressant, mais un peu mono-interprétation. Je découvre. Je l'avais vu en interview chez Antithèse, les amis d'Antithèse qu'on embrasse. Et j'avais trouvé ça très chouette, mais c'est vrai que là, le bouquin, faut s'accrocher. Moi, j'ai arrêté la physique chimie en cinquième. Donc, j'étais au niveau décortiquer tes crottes de nez et faire vibrer un cœur de canard. Hein. Donc, là, c'est sûr, quand tu commences à me parler la conscience en 10D, en 10 dimensions, là, je commence à dire, oula. Moi, j'étais au 3D, les biscuits apéro. 3D, là. 3D Buggles. Les salés, c'est les meilleurs. Moi, j'en étais là. Donc, si tu commences à me parler 8D, 10D, DD à l'apéro. Là, c'est vrai que, voilà. Qu'une d'une 73 nous dit c'est énorme, en tout cas le premier est excellent. Mais peut-être que je vais y aller, peut-être que vous me motivez. Anarchy 08 sur Anna Arendt dit comme la grève et hymne, très bon livre de Arendt. Bah, tu vois, je les connaissais même pas. Ça fait plaisir, il y a plein de livres différents, c'est chouette les amis. Je regarde un petit peu de partout. Zom sur TikTok qui nous dit, moi qui suis pas communiste, j'ai trouvé le livre de Georges Marchais très humaniste, plutôt d'accord. Asclepios sur TikTok également dit le problème à trois corps de Liu Xinqin, ça pourrait plaire à Philippe Guillemin. Il paraît que c'est super ça. Alors là, je m'adresse aux amateurs de science-fiction. Il paraît que Liu Xinqin, alors je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, C-I-X-I-N, donc on va dire Xinqin, parce que j'ai déjà mangé 3-4 fois dans un buffet illimité chinois, donc je maîtrise un petit peu le mandarin. On va dire Liu Xinqin, il paraît que c'est génial. Il paraît que c'est très chouette. Je crois souvent en librairie. J'ai jamais vu. Un gros bisou à Alexandrine 59 qui vient de subprime. 36e mois. J'espère que tu vas bien. Dans le nord. Eh oui, le nord de la France. On y va à la fin de l'année. Le spectacle. Ce sera peut-être la dernière d'ailleurs de l'année. À Lille, ça promet. Et sinon, il y a Isa6780 sur YouTube qui nous dit « Je lis à l'endroit de Combas. » Voilà. Ça, c'est bien. Et Olivier Philippe, 7346, le bon élève, qui dit « Politique française, le guide de survie ». Absolument. Et à lire un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre pour tout comprendre. Mais le pire, c'est qu'on rigole, hein, mais ce bouquin, ça fait un an maintenant environ qu'il est sorti, un peu moins, je ne sais plus. Et ben c'est d'actualité, cette affaire. Hein, je vous le dis. Hein. Je ne suis pas devin, mais sur le décryptage de la politique française, quand on voit ce qui se passe, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Alors, dès que ce sera dépassé, je vous le dirai, évidemment. Mais là, sur les personnages en lice pour 2027, on est pas mal. On est pas mal sur ce bouquin. Les amis, on va attaquer sur les sujets du jour. Je vous l'ai dit, ça part dans tous les sens. Il y a plein de choses. Et je voulais Rapidos. Alors, Rapidos, déjà remercier Cuilemo Airfryer qui vient d'offrir un sub à Mimi Ronchonchon, voilà, qui gagne un sub. C'est le 116e sub offert par Cuilemo Airfryer. C'est quand même complètement dingue. J'y fais un bisou. Voilà, j'y fais un bisou. C'est gagné, évidemment. On commence à parler des municipales. Vous inquiétez pas, on va pas faire 3 heures là-dessus. On en a beaucoup, beaucoup parlé ces derniers jours. Mais je voulais vous montrer ces statistiques qui ont été publiées, notamment par Public Sénat. Je crois que je l'ai vu dans les Échos ce matin dans les journaux, il me semble. Pour mesurer la différence de l'évolution de l'abstention entre les grandes villes et les petites villes. Je vous parlais en début de semaine du désintérêt des Français avec une abstention qui augmente. Là, il y a des chiffres qui sont sortis, c'est saisissant. Je vais vous lire ce que dit Public Sénat. Écoutez bien, c'est impressionnant. Le scrutin municipal de 2026 est marqué par une abstention en hausse par rapport à 2014, environ 43% cette année contre 36,6% à l'époque. Donc ça, on en avait parlé. Mais ce qui est encore plus fou, ce phénomène est amplifié au niveau des communes de moins de 1000 habitants. L'abstention a atteint 35,8 contre 24,7% en 2014. Donc vous avez presque 10 points d'écart entre 2014 et 2026 au niveau de l'abstention dans les communes de moins de 1000 habitants. Donc on a vraiment un symbole clair qui est envoyé, qui est que la politique... Je renverserai la chose, parce qu'on dit souvent les gens se désintéressent de la politique, on accuse les citoyens de se désintéresser. Eh bien, je prends mon risque, je prends ma responsabilité en vous disant que je pense, et d'ailleurs, je le pense profondément, tout est fait pour désintéresser les gens de la politique. Et aujourd'hui, même dans des petits bleds de 1000 habitants, eh ben, vous avez un taux d'abstention qui est quasiment à 40%. 1000 habitants, il faut savoir que tu as une chance sur 4 que le maire il soit de ta famille quand même. C'est, 1000 habitants, c'est pas beaucoup. Hein. Ça va. Hein. Normalement, ça rentre. Hein. Et même là, tu commences à avoir des gens qui se désintéressent. Alors, je pense que il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Déjà, il y a le fait que parfois, il n'y a qu'une seule liste. On en avait parlé de ça. Hein. Je vous avais expliqué que vous avez... près de 20 000 communes en France où il n'y avait qu'une seule liste qui s'est présentée. Donc évidemment, là, ça enlève tout l'intérêt d'aller voter. Le devoir de voter, oui, bah, quand il y a une liste, si tu veux, mes devoirs, je vais les faire chez moi devant Téléfoot. Il faut reconnaître que voilà. Donc une fois de plus, c'est un marqueur supplémentaire pour expliquer l'état de la démocratie en France. Et je pense sincèrement que tout est fait pour désintéresser les gens. Enfin, je pourrais vous mettre quelques séquences. Alors, hier, on a eu le débat des municipales à Paris. Et c'est vrai que j'ai vu un commentaire sous une vidéo juste au milieu. Et j'ai trouvé ça juste parce que il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais Rémi, tu reproches que les médias ont parlé que des municipales à Paris. Eh ben, toi, t'as fait pareil parce que tu te foutais de leur gueule, mais t'as parlé de ça à Paris. » Et bah tu vois, j'ai trouvé ça juste. J'ai trouvé ça juste. Même critiquer le comportement des mainstreams, ça revient à ne parler que de Paris. Et bah par respect pour ce commentaire, je ne vous montrerai pas les extraits du débat débile qu'il y a eu sur BFM entre Emmanuel Grégoire, Rachida Dati et Sofia Chikirou. C'était une foire d'empoigne lamentable. Attendez, j'ai Madame Milieu. Alors là, je suis obligé de me couper parce qu'elle me pose la question et je vais l'épouser. Elle me dit quoi ? Tu veux manger quoi ce soir ? C'est pour ça, j'arrête de vous parler. Je suis en direct, mais moi, tu me dis qu'est-ce que tu veux manger ? Il n'y a plus rien qui compte. Normalement, voilà, c'est... J'ai le respect de ne pas couper. Mais... mais tu vois, ça m'a déconcentré, vous l'avez vu. Hein. Ma phrase, elle était construite, elle était nette. Là, moi, j'ai lu « Tu veux manger quoi ?» Alors, il y a les petits surnoms mignons, t'as capté, mais voilà. Mais j'ai tout arrêté. Hein. Ça m'a complètement déstabilisé. Je sais plus où on en était. De quoi je vous parlais ? De mes ongles de pied, un truc... Rachida Dati. Ouais. Bah, c'est pareil. Il y en a un qui est plus cher que l'autre, c'est tout. Hein. Mais le débat lamentable. Et j'ai vraiment bien aimé ce commentaire parce que j'ai trouvé ça juste. Donc je ne diffuserai pas les extraits de ce truc parce que c'est assez... assez ridicule. Donc voilà, je voulais en tout cas vous parler des petites villes, justement, aux municipales, et que ce désintérêt de la politique, eh ben, à un moment donné, je me dis, peut-être qu'il faut arrêter de culpabiliser les citoyens en disant « Oui, mais l'abstention, c'est des gens qui vont pas voter. » L'abstention, ce sont aussi des gens à qui on ne donne pas envie d'aller voter. Et quand la politique devient un gigantesque lupanar de types qui font tout pour avoir des postes, qui sont prêts à faire des alliances avec des gens qui, hier, étaient qualifiés de nazis, de pro-Hamas ou de je sais pas quoi, bah, vous donnez pas franchement envie aux gens d'aller voter pour vous. Tu vois. T'imagines, à Nice, quand t'as le choix entre Éric Ciotti et Estrosi, moi, honnêtement, non seulement je vais pas voter, et je déménage. Je vais habiter à Moscou, tu vois. En gros. À un moment donné, voilà, je trouve que c'est un peu trop facile, élection après élection, de pointer du doigt l'abstention, de culpabiliser les citoyens, alors qu'en vérité, ça va dans les deux sens. Il faut donner envie aux gens de participer à la démocratie. Et le spectacle actuel, je suis pas certain qu'il y contribue. Voilà. Ouais, t'as vu, ça balance. Hein. Ça balance. J'ose des positions. Dites-moi, bien sûr, les amis, ce que vous en pensez de ça. Il y a Éclat 15 qui nous dit « Comme quoi, la seule façon de désarçonner un Rémi, c'est lui parler bouffe. » On s'en doutait, mais c'est confirmé. Les complotistes avaient encore raison. C'est bon, ça. Anarchy08 qui dit « Me semble que la ville avec le plus haut taux de participation est à peine à plus que 50%. C'est pas impossible. Oh, tu dois avoir des petits villages à plus. Enfin, oui, la ville, ouais, peut-être. Je sais pas, là, à vrai dire. Le Doubs qui nous dit « C'est clair, les gens comprennent pas ça. Phil, entre autres, je vote pour les têtes de porc. » L'affaire de la tête de porc d'Estrosi, c'est quand même un délire. J'espère qu'on aura le fin mot de l'histoire. On en a parler. Donc voilà. Et Céline sur TikTok qui nous dit, quel qu'il soit, ils œuvrent tous pour leurs privilèges et non pour le peuple. Voilà, bam. Et là ça tape ça tire à boulet rouge, j'ai envie de dire. Ça tire à boulet rouge. Et justement, pour continuer dans les réjouissances, on va aller vers cette actualité judiciaire qui a été relayée dans Libération du 18 mars. Alors, je vais vous donner un petit peu le contexte de tout ça. Je voulais vous parler évidemment de cette décision de justice qui devrait faire un petit peu plus parler. C'est Libération qui nous en parle dans son édition du 18 mars 2026. Vous allez très vite vous rappeler du contexte. Je vous lis le titre. Gilets jaunes matraqués dans un Burger King, du sursis pour les CRS. Alors, vous vous rappelez peut-être de cette séquence, le 1er décembre 2018, en pleine crise des Gilets jaunes, on a des manifestants qui se retrouvent dans un Burger King et des CRS qui vont les nasser à l'intérieur même du restaurant et vont suivre des échanges de matraques assez violents, très violents. On a Libération qui avait fait
un déluge de...
qui avait fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet il y a un mois, juste à l'approche du procès, qui nous avait dit ça. Je vous montre un petit extrait de la vidéo de Libération pour vous remettre dans le contexte.
Coup de matraque et de pied. Libération révèle des images inédites des violences commises par des CRS dans un restaurant Burger King à Paris. Le procès de 9 policiers s'ouvre ce lundi 9 février dans cette affaire symbolique de la répression du mouvement des Gilets jaunes.
Voilà, donc des images lourdes, des images pas fastoches, mais je voulais vous les montrer quand même pour encore mieux comprendre l'énoncé du verdict. Parce que le procès a eu lieu du côté de la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Et je vais vous lire ce que nous dit Libération, là encore, qui a bien suivi ce dossier. Je vais vous lire l'énoncé du verdict pour comprendre un peu le truc. Alors, les mises en cause écopent de 6 à 24 mois de prison avec sursis, sans peine complémentaire d'interdiction de porter une arme, normalement obligatoire mais écartée par les juges. L'usage de la force ne présentait pas les conditions strictes et impératives de nécessité et proportionnalité, a estimé Thierry Donnard, le président du tribunal, en rendant son jugement. Lors du prononcé du délibéré, il a souligné le contexte social objectivement violent et reconnu l'état d'épuisement mental et physique important des policiers, aujourd'hui considérés comme délinquants. Mais le tribunal a écarté les éléments avancés par la défense pour éviter une condamnation. Les manifestants présents dans le Burger King présentaient un comportement pacifique, détaille le magistrat. Ils n'ont commis aucun acte de violence et de résistance. Enfin, les juges ont estimé que ces violences avaient été commises après un ordre précis de la hiérarchie directe d'évacuer le restaurant. Aucun des policiers ne s'était déplacé mardi pour entendre ce jugement. Le 9 février, à l'ouverture de l'audience, les 9 prévenus étaient arrivés ensemble, en tenue de cérémonie avec leurs insignes, grades et décorations. Et ce, avec l'autorisation de leur hiérarchie, expliquait leur avocat Laurent-Franck Liénard, affirmant qu'ils étaient alors au travail. Le tribunal avait décidé qu'ils ne pouvaient pas comparaître en uniforme, un détail qui n'a pas empêché à l'esprit de corps de prendre une place particulière. Donc, et Libération nous dit ensuite d'autres choses. Donc, au vu des images que je vous ai montrées, on est face à un jugement avec du sursis. Juste du sursis. Alors, je vous parle de ça parce que ça permet quand même de reparler des Gilets jaunes, de la période des Gilets jaunes, et je crois que c'est toujours important de se rappeler qu'à un moment donné, des milliers, des centaines de milliers de Français se sont levés à travers le pays pour dénoncer ce qu'on dénonce aujourd'hui. Hein. Au moment des Gilets jaunes, le litre d'essence était à 1,40€, on s'en rappelle, 1,30, 1,40. Donc, aujourd'hui, on en est là, la situation a été oubliée, la page a été tournée pour certains, notamment du côté des médias et de la politique, mais la période des Gilets jaunes était, en tout cas c'est mon avis, la dernière période marquante où le peuple français s'est à peu près uni, à peu près rassemblé, en tout cas beaucoup plus que d'habitude, et qu'on a retrouvé sur des ronds-points avec des gilets fluo, des prolos, des fonctionnaires, des patrons, des ouvriers, on a retrouvé de tout, on a retrouvé la France pour cette France qui, à un moment donné, voulait dire « ça suffit, il y en a marre », cette France qui avait envie de se faire entendre. Et à ce moment-là, il y a eu une réponse policière qui a souvent été correcte, parce qu'il faut quand même le rappeler, oui, il y a eu beaucoup d'excès, beaucoup de violence, mais il y a eu aussi beaucoup de moments où ça s'est très bien passé. Il faut quand même le rappeler, parce que ça marche dans les deux sens. Hein. Les médias ont instrumentalisé la période des Gilets jaunes pour les rendre détestables, donc ils ont focalisé sur les faits de violence, ils ont focalisé sur un mec qui avait fait une quenelle à Montmartre, si je dis pas de conneries, sur les marches du Sacré-Cœur, et les médias avaient instrumentalisé tout ça pour décrédibiliser les Gilets jaunes. Dans l'autre sens, il ne faut pas non plus chercher à décrédibiliser tous les membres des forces de l'ordre. Il y a eu des faits de violence, c'est clair, net et renseigné. Amnesty International avait quand même fait un article sur la répression pendant la période des Gilets jaunes pour rappeler que la réponse avait été excessive. Donc, hein, je peux vous montrer l'article hein, d'Amnesty International, par exemple. Enfin, l'un des articles d'Amnesty International. J'en ai un qui fait référence que j'aime bien. Voilà, c'est celui-là. Gilets jaunes en France... Un bilan inquiétant, 2500 blessés côté manifestants et 1800 côté forces de l'ordre. Les chiffres annoncés par le gouvernement révèlent le caractère inédit des violences qui ont émaillé les manifestations depuis un an. Vous avez quand même Amnesty International qui s'était mobilisé, qui avait dénoncé, regardez hein, ce qu'on peut lire hein, sur le site d'Amnesty International, les Nations Unies, le Défenseur des Droits ou le Conseil de l'Europe se sont tous inquiétés de l'usage excessif de la force en France et des restrictions que cela entraîne sur le droit pour les personnes de manifester pacifiquement. Donc, pour s'arrêter deux secondes là-dessus, quand t'as Amnesty International qui vient de faire des leçons sur ce que tu fais chez toi, c'est que t'as merdé. Hein, parce qu'à longueur de journée, Amnesty International, on les entend jacter sur des pays dirigés par des dictateurs, dirigés par des tyrans, parfois sanguinaires. Donc, quand Amnesty International te dit hey, « mollo sur la matraque », c'est « mollo sur la matraque », c'est pas une expression polie pour désigner une fin de soirée chez Patrick Bruel. Hein. On va en parler de Patrick, d'ailleurs. Mais, donc, faut quand même se remettre dans le contexte. La répression des Gilets jaunes n'était pas normal. Elle était d'une violence excessive. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est bien de le rappeler, près de 10 ans maintenant, après le début des actes des Gilets jaunes, les actes au sens, il y avait acte 1, acte 2, acte 3 et compagnie, hein. Acte sud, hein, quand ça manifestait dans le sud. Ça, c'est une manif, c'est une petite ref littéraire. Donc, faut quand même pas oublier ça. Donc, on va pas refaire toute l'histoire. J'insiste simplement sur ce point parce qu'on est chez Juste Milieu, t'as capté le nom du truc. On essaie voilà, de pas criminaliser tout le monde, ni les manifestants, ni les membres des forces de l'ordre. Si je vous parle de ce jugement, c'est pas pour ça. C'est pas pour dire, ah ben vous avez vu, de toute façon, les forces de l'ordre sont tous protégés par l'État, nanana. Il y a des cas où c'est vrai. Je pense que ce jugement est la démonstration que le pouvoir français a donné des consignes pour casser la gueule aux manifestants et que forcément la justice suit et moins de 10 ans après, un peu moins de 10 ans après, vous avez des jugements d'une clémence incroyable. Donc ça, je le pense profondément. Tout comme il y a eu des manifestants du côté des Gilets jaunes qui ont fait de la merde et qui ont commis des violences et qui ont été sanctionnés à juste titre. Mais au beau milieu de tout ça, vous avez des citoyens qui avaient envie de se faire entendre et des membres des forces de l'ordre qui ont fait leur boulot. Donc ça fait un mélange où si t'essaies de pas être dans le divisé pour mieux régner, bon bah tu regardes tout ça et tu dis bon bah voilà, hein, c'est des gens qui ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il y en a qui ont manifesté, il y en a qui ont fait leur boulot. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on trouve ça scandaleux ou pas. Essayons de condamner aux marges, de condamner les comportements vraiment condamnables. Comme ça, on est rigoureux et on s'évite des reproches de nos amis journalistes ou fact-checkers. Mais tout ça pour dire quand même que ce sursis, enfin ces peines de sursis, elles ont de quoi interpeller. Alors dans un écho médiatique assez restreint, on va dire, il faut reconnaître que Libération fait le boulot sur ce sujet-là. Mais voilà, je voulais le souligner pour dire des évidences, hein. Je suis d'accord avec vous que j'ai pas révolutionné la chose, mais je voulais vous en parler pour maintenir ce symbole de la période des Gilets jaunes, la maintenir au premier plan, parce qu'en vérité, c'est l'une des dernières fois, pas la dernière, hein, mais l'une des dernières fois où le peuple français s'est soulevé, s'est fait entendre. Plus récemment, on a eu les convois de la liberté, vers la fin de la période Covid, alors si tant est que la période soit finie, parce qu'il n'y a pas eu une date butoir, hein, mais il y a eu aussi, bien sûr, beaucoup de manifestations pendant le Covid, où les gens se sont fait entendre, que ce soit les manifestations côté Paris, qui étaient lancées par, entre autres, Florent Philippot et les Patriotes, mais plus largement dans toute la France, tous les collectifs, toutes les associations, tous les gens qui se sont réunis pour dénoncer les mesures sanitaires. Donc, évidemment, cette vidéo est aussi l'occasion d'avoir une pensée pour tout le monde et de faire un bisou à tous ces gens-là. Maintenir vivante l'action d'un peuple qui se soulève. Eh, c'est beau comme Dieu dit Mitchell, ça, tu vois. C'est beau, c'est très beau. Enfin, je pense que c'était pas dégueu. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jugement, les amis. On en reparlera sûrement s'il y a des suites ou pas. Mais cette période des Gilets jaunes, espérons juste qu'elle ne soit pas complètement derrière nous pour rappeler quand même un petit peu au pouvoir en place que, à un moment donné, le peuple est en mesure de dire stop, donc ça fait pas de mal. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça, les copains. Je prends vos commentaires. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez. Dans le chat, il y a plus de saison qui nous dit « On a bien vu les antifas caillasser des vitrines et quand les gilets jaunes les montraient à la police, ils allaient se réfugier derrière ces forces de l'ordre. Antifa, chien de garde de la Macronie avec LFI et compagnie. » Rickstasy qui dit « C'est à Mantes-la-Jolie qu'ils ont humilié et terrorisé des lycéens. » Comme si c'était des terroristes à genoux. Oui, tout à fait, on se rappelle aussi de cette image. Hervé Rowe, le meurtrier de Cédric Chouviat, n'a toujours pas été condamné. Les trois agresseurs de Michel Zecler non plus. L'impunité de la police va créer des drames. Il y a plus de saison, ne pas oublier aussi que Mélenchon traitait les gilets jaunes de fascistes pendant 3 semaines. C'est vrai qu'il y avait eu ça aussi. C'est peut-être pour ça que ça n'intéresse pas trop les gens de ne pas reparler des gilets jaunes, parce que le RN n'était pas franchement derrière eux, et LFI les a même un petit peu moqués, on va dire. Donc je crois que personne n'a envie d'y revenir, que ce soit la Macronie, mais aussi d'autres partis. Ce qui n'est pas rassurant, on est d'accord. J'en ai marre qui dit sur 6, pas de sanctions administratives, pas d'amende, pas besoin de se déplacer. En fait, ils n'ont pas eu de sanctions, quoi. C'est pas loin, c'est pas loin non plus. Donc voilà les copains, là-dessus, sur ce sujet. Deuxième sujet du jour, 17h11, on est dans les temps. Deuxième sujet du jour, et ça, ça va être du plaisir. Ça va être un grand moment de plaisir, de cinéma, de culture, dont je voulais vous parler, parce que ça m'a rendu à la fois grognon, à la fois ça m'a fait rire, à la fois c'est symbolique, mais je voulais vous parler de l'histoire de Souleymane. Alors, l'histoire de Souleymane, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà, qui est Souleymane? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Souleymane? Alors, je vous remets dans le contexte. Il s'agit d'un film sorti très exactement en 2024. Un film, je vais essayer de vous mettre un petit bout de la bande-annonce. Attends, on est des amoureux de 7e art, on est des amoureux de salles obscures, évidemment. Je vais essayer de vous montrer ça sur YouTube. Ça va marcher, cette histoire de YouTube, hein. C'est une plateforme américaine. Tu peux trouver plein de films, t'en as plein, vraiment, t'as des bandes d'annonces, t'as des vidéos à la con, t'as tout, t'as des pubs, il y a plein de trucs. Je vais vous montrer un petit bout de l'histoire de Souleymane pour vite comprendre le contexte, et ensuite on en parle et je vais vous raconter ce qui s'est passé, c'est hautement symbolique.
Moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? frérot. Ouais. Je t'ai donné le compte pour que tu travailles.
Ça sonne pas.
Il faut travailler, il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer.
Fais le tour.
Toi, c'est pas Emmanuel, toi.
Effectivement.
Oui, là.
Ouais, c'est pas lui.
Suleiman, Mouliani.
Merci.
Moi, j'ai besoin des sous.
Demain, je te paye à 13h.
C'est pour moi, courage.
Merci beaucoup.
Voilà, vous avez compris l'idée, hein. On est face à donc l'histoire de Souleymane, qui est un personnage présenté comme issu de l'immigration, sans papier, qui arrive en France et qui vit de petits boulots pour survivre en France. Alors, du grand classique, vous allumez une série France 2, en général c'est souvent ça aussi, du grand classique de ces films bien pensants, là on peut le dire, qui racontent des sujets d'actualité avec un angle pas du tout idéologique, mais à la limite, pourquoi pas, hein, et un film qui bien sûr avait été... encensé par la critique. Alors je peux vous lire par exemple, pour commencer la blague, parce que bon, l'histoire, hein, sur la fiche d'Allociné, je vous la lis. Tandis qu'il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Souleymane répète son histoire. Dans 2 jours, il doit passer son entretien de demande d'asile, le sésame, pour obtenir des papiers, mais Souleymane n'est pas prêt. Voilà, ça c'est le synopsis, le résumé du film. Alors forcément, la critique presse, et c'est là où on se régale, de lire des morceaux de critique presse. Donc, si vous aimez les trucs caricaturaux, il y a ça, par exemple. Le jour où vous faites chier, je vous donne un petit conseil, une petite astuce que moi j'aime bien au quotidien. Quand vous vous faites chier, vous allez sur Allociné, vous tapez n'importe quel film récent, et vous regardez les extraits de critiques dans les journaux mainstream. Et alors là, c'est du miel. Parce qu'il faut imaginer que tu as des bureaux qui puent encore un peu la clope d'avant, quand tu avais encore le droit. Et tu as des journalistes qui ont aujourd'hui 30 ans, donc des jeunes, hein, qui sortent d'école, qui ont un master en art appliqué, option cinéma, en noir et noir, sous-titré Polak. Donc t'as vraiment, c'est des mecs pointus. Hein. C'est des mecs, ils ont monté un cours. Ils ont monté un court-métrage entre potes. Ouais. Ils sont partis 3 semaines en Croatie, à la recherche d'ours blancs. Et en fait, le documentaire filme leur compréhension du fait qu'il n'y a pas d'ours blanc en Croatie, en fait. C'est un chef-d'œuvre, en fait. C'est un chef-d'œuvre parce que ça raconte une quête sans fin vers un objectif qui ne peut pas être poursuivi dans la mesure où il n'existe pas. C'est de la merde. Mais 100 000 euros de subvention CNC. Donc automatiquement, Palme d'Or à... Palme d'Or à Bourg-la-Reine. Le festival de Bourg-la-Reine qui est beaucoup, beaucoup moins connu, qui faisait dans le porno avant, mais ça marche plus. Donc, bref, faut imaginer que les journalistes cinoches, c'est des mecs brillants. Ils ont tout vu. Tu vois, quand ils vont regarder un film, ces gens-là, ils te disent pas « Je vais regarder un film machin, machin ». Ils te disent « Je me fais un Bergman, ouais ». Ouais. Ouais, absolument, ouais. Dernière Zumba, Albertville, ouais. C'est un chef-d'œuvre, c'est un film oublié d'Albert. Enfin bref, bon, j'adore ce personnage. Mais... Donc, les bouts de critiques de presse, c'est toujours du miel. C'est toujours du miel parce que les mecs essaient de faire des effets de manche. Et pour l'histoire de Souleymane, je vais vous en lire quelques petits bouts. Parce que c'est pas du tout caricatural. Mais vous allez comprendre à quel point la presse mainstream a adoré ce truc-là. Les dernières nouvelles d'Alsace. Pourtant, c'est en Alsace. Hein. C'est Nathalie Chifflet qui écrit ça. Nathalie nous dit... Dans un film dur et droit, entre l'asphalte et le ciel, Boris Lochkine raconte un jeune clandestin, un livreur sans visage, que l'on croise sans jamais le voir vraiment. Ah, s'il n'y a pas de visage, oui, tu le vois pas. C'est sûr que Louis XVI, en fin de carrière, tu pouvais pas faire un duel de regard, hein, évidemment. Hein. T'as quoi d'autre ? La Voix du Nord. Et là, c'est Catherine Pincé qui nous écrit ça. Un film fort, dont les choix esthétiques l'emmènent au-delà du constat documentaire et de la chronique sociale. Le Dauphiné libéré, c'est toujours Nathalie Chifflet d'ailleurs, vous noterez que c'est la même. Genre, je sais pas pourquoi. Alors Nathalie, c'est vrai qu'elle s'est pas fait chier parce qu'elle avait déjà fait une critique dans les dernières Nouvelles d'Alsace. Pour le Dauphiné libéré, elle a dit « Allez vous faire cuire le cul », elle a écrit un film bouleversant. Allez, merci. Merci Nathalie, coup de chifflet, fin du match. Qu'est-ce qu'on a ? Les Échos, bouleversant, sans angélisme ni sensiblerie. C'est Olivier De Bruyne. Alors Olivier De Bruyne, il est aussi chez Marianne. Parce que ces gens-là, ils sont tellement rares qu'ils sont dans plein de journaux, tu vois. Et il nous dit « On oublie les fictions démagogiques, croulant sous le poids de leurs bons sentiments. » Dans ce nouveau film, un des plus impressionnants de l'année, du côté du cinéma français, bon, c'est-à-dire que t'es au-dessus de la pub Intermarché, Boris Lochkine suit à la trace un sans-papier, confronté au réseau d'économie souterraine et à l'absurdité administrative. Bref, je peux faire ça pendant 2 heures. Vraiment, j'adore. On va quand même se faire Télérama. On me dit, Anarchizoroid, t'as raison, qui me dit « Envoie les Inrocks et l'Humain », parce que c'est quand même les clichés du truc. Télérama, un thriller à couper le souffle. Voilà. Bon, pourquoi pas. En fait, t'es entre Seven et James Bond, mais oui, oui, en fait, oui. Attends, t'as raison, on va se faire les Inrock. Mais peut-être ils ont pas aimé. Hein. Attends, les Inrock, ils sont là. Aïe, 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 deux étoiles pour les Inrock. Ça, ça sent pas bon. Ça, ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? En surdramatisant lourdement la trajectoire de son personnage, le film de Boris Lochkine vire à la chronique rédemptrice et perd toute portée politique. Eh putain, et t'imagines, même les Inrock, ils ont pas aimé un film de gauchiste. Donc c'est que vraiment, c'est turbo-gauchiste. C'est, ça va très très loin. Donc, pourquoi je vous lis ça ? C'est pas, pourquoi je vous dis tout ça ? C'est pas juste pour cette histoire de Allociné. Ce film a été encensé par la critique, ça a été vraiment un truc énorme. L'acteur qui joue Souleymane dans le film, donc un certain Abou Sangaré, il a même reçu le prix d'interprétation masculine de la section Un Certain Regard à Cannes en 2024. Donc franchement bravo. César 2025, meilleure révélation masculine, meilleur scénario original, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur montage. Voilà. Et normalement en 2026 c'est Gérard Miller meilleur montage, on croise les doigts. Donc vraiment ils ont eu plein de récompenses, le cinéma français a adoré ce film, ils ont adoré et ça a été un succès relatif. Alors je sais pas combien ils ont fait en salle, 600 000 entrées pour un budget d'1,3 million d'euros, ce qui est pas énorme hein. En budget cinoche, je crois que les cadors de Jérémy Ferrari justement c'est 4 millions si je dis pas de conneries, donc pour un budget cinoche c'est pas énorme. Après il faudrait voir le découpage, est-ce qu'on a le budget, le découpage, je sais pas. En tout cas j'ai une source du Monde. Donc quand même, je me permets encore de vous lire ça. Pour l'histoire de Souleymane, Boris Lochkine ne voulait pas d'un film politiquement correct. Je pourrais m'arrêter là. Vraiment, cette séquence, je pourrais l'arrêter là. Normalement, vous avez assez rigolé, mais j'ai pas fini. Donc on va continuer. Pourquoi je vous parle de ça ? Ce film, l'histoire de Souleymane, vous avez compris l'idée. En plus, c'est sur un sujet où évidemment, c'est dans l'air du temps, donc tout va bien. Et tu te dis, bon, le mec, quand même, révélation masculine. Au César, donc quand t'as un truc comme ça, c'est la classe. Normalement, après, t'es embauché sur toutes les merdes d'Arnaud Desplechin, tous les acteurs à la mode te veulent, tu joues dans 33 films, et puis après, tu finis à faire une pub pour Le Bon Coin, tu vois. Classique, la trajectoire classique des vedettes du cinoche français. Et ben là, on a eu droit à quelque chose d'un petit peu plus original, parce que, qu'est-ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux il y a maintenant une semaine, c'était le 12 mars, je vais vous montrer une vidéo, et vous allez comprendre l'idée. Voilà, alors bon, je vous fais pas un reportage sur le BTP. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est que le monsieur que vous voyez sur cette vidéo, c'est exactement Abou Sangaré, l'acteur de l'histoire de Souleymane, qui, blague par-dessus la blague, était au départ un vrai migrant. C'est-à-dire que, je récapitule pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ce film, l'histoire de Souleymane, ils ont cherché un acteur pour jouer Souleymane. Dans le film, c'est un migrant qui n'a pas de papier, qui cherche à en obtenir. Et ben pour jouer ce rôle, ils ont trouvé un vrai sans-papier. Ouais, ben oui, c'est un rôle de composition, après tout. Enfin non, justement, un rôle de décomposition, parce qu'il joue pas, en fait, il joue lui-même. Et tu vois, Abou Sangaré, si tu regardes son parcours, c'est pas marrant. Hein. Abou Sangaré, originaire de Guinée, voit sa mère tomber gravement malade durant son adolescence. Confronté à l'incapacité de subvenir à ses besoins médicaux, il prend la décision de migrer en Algérie pour rechercher du travail, puis en Europe. Arrivé en France en 2017 à 16 ans, il est inscrit par des associations à un baccalauréat professionnel maintenance des véhicules de transport routier à Amiens. Après son baccalauréat, il obtient son brevet de technicien supérieur. Sa mère décède malheureusement en Guinée en 2019. Donc, ce qui est important quand même, je vous lis également cet élément, à la question de savoir s'il compte désormais faire carrière dans le cinéma, il répond non, il y aura peut-être des offres, mais je suis mécanicien, c'est mon métier, je suis pressé de pouvoir travailler dans le garage. Donc, je vous parle de ça parce qu'il y a deux choses. Il y a quand même le niveau du symbole, c'est-à-dire que t'as un personnage ultra exploité dans ce film, et toute la promotion de l'histoire de Souleymane reposait là-dessus, de dire c'est une mise en abîme d'un migrant qui joue son propre rôle. Donc le cinéma français s'est régalé, ils en ont fait une coqueluche incroyable, et la réalité c'est que derrière, le mec redevient mécano comme il était avant. Alors Attention, si c'était son choix, évidemment que ça se respecte. Mais tu te dis, avec un film qui bricole 600 000 entrées, un symbole qui a été étalé de partout, ils en ont fait des tonnes de partout, en disant « mais regardez comme on a plein de bons sentiments, regardez comme on est trop fort, on donne la chance à des gens », et finalement le mec, par décision peut-être, redevient mécano, est-ce qu'il attirait vraiment beaucoup de pognon de cette histoire ? C'est ce que je trouve assez dingue, avoir son image exploitée de la sorte par le cinéma français qui se, voilà, qui se donne le beau rôle dans cette affaire, et finalement tu te retrouves un an, même pas un an et demi, après la sortie de ton film, et tu te retrouves mécano, et puis tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Donc on a vraiment le symbole parfait, je trouve, de l'exploitation des bons sentiments, comment le cinéma français se met du bon côté. Et aujourd'hui, bah, le pauvre gars, il redevient en fait mécano comme il l'était avant. On peut lire également une actu pour boucler la boucle, parce que celle-là, je ne sais pas à quel point c'est vrai. Je l'ai vu en préparant cette émission, mais il y a quand même le doute. Quand je vous dis que Abou Sangaré ne voulait pas refaire de cinéma, il y a quand même le doute. Je prends des pincettes, je vous donne les deux versions, mais là, je vous ai donné la version politiquement correcte. Mais il y a quand même un article du Parisien du 25 février 2026. Abou Sangaré, le mécanicien sacré meilleur espoir masculin l'an passé, rêve toujours de cinéma. L'acteur de 24 ans, César, du meilleur espoir masculin pour l'histoire de Souleymane l'an dernier, n'a pas tourné depuis, mais embauché dans une société de location de matériel et d'outillage à Paris, il continue de passer des castings. Donc, on n'est même pas à l'abri que le côté « ouais, non, mais de toute façon, s'il est redevenu un prolo, c'est qu'il ne veut pas faire de cinoche », on n'est même pas à l'abri que ce soit pas vrai. Parce que pour un mec qui ne veut pas faire de cinoche, si tu fais les castings, c'est quand même pas pour goûter le café, tu vois. Donc, je trouve ça dingue dans cette histoire. Je voulais vous en parler parce qu'on a toute une symbolique, comme on l'aime, la symbolique de notre cinéma français qui va se fabriquer des symboles, qui va se targuer d'être des... Voilà, ce sont des gens bienveillants, du bon côté, du côté du progrès et compagnie. Et derrière, en fait, ça se pète complètement la gueule. Et vaut mieux pas trop chercher, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'en fait, le mec ait envie de continuer à faire du cinoche, mais juste, il lui est dit, eh oh, ça va, de toute façon, tu joues comme une patate parce que t'es pas acteur, on t'a pris parce que t'étais migrant, mais crois pas que tu vas avoir des rôles, tu vois. Donc, je voulais quand même vous parler de ça. Ça pourrait être du Molière. En vérité, ça pourrait être du Molière. Donc, voilà les amis sur ce sujet, dites-moi dans le chat que vous en pensez, et puis je dois vous le dire d'ailleurs très, très clairement, je ne l'ai pas vu le film, hein. Donc je vous parle de l'emballage qui est autour de tout ça, je serais même curieux de le voir, parce que c'est sûrement un chouette film, hein. Mais je trouve que voilà, la symbolique est forte autour de ce film, l'histoire de Souleymane. Voilà. Le Doubs qui nous dit c'est triste pour lui, il a dû y croire. Un Saint-Jean-Hiver qui dit on appelle ça la gauche. Un Saint-Jean-Hiver, ça il faut que je le voie ce film d'ailleurs, il paraît que c'est un chef-d'œuvre avec Jean Gabin, il faut que je voie ce film, Un Saint-Jean-Hiver, ton pseudonyme me fait penser à ça camarade. Baldacat qui dit super, on peut parler paupiètes de veau maintenant. Bah, j'ai commencé avec Rachida Dati l'émission, on n'était pas loin, hein, donc ça va, hein. Jean Aymar qui dit c'est sûrement un chouette film, La naïveté d'un homme. Oh, je suis ouvert à tout moi, écoute. Franchement, ça m'est déjà arrivé des films où je me suis dit, tiens, ça va être de la merde. Et c'était de la merde. Donc, là, on ne sait pas, peut-être pas. Romano 5962 qui dit faire des œuvres sur la pauvreté. On est plus sur du Dickens. Dolphy Lalimas, on en a déjà un plus bankable d'acteurs noirs en France. C'est vrai que notre ami Omar Sy, qui ne s'est pas encore mobilisé d'ailleurs là-dessus, hein, pour hurler peut-être au racisme du cinéma français, qui ne veut plus donner de rôle à Abou Sangaré. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, on n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles d'Omar Sy, qu'on embrasse. Salut à mon Guillaume Martin 8805 sur YouTube, qui est là également. Vous êtes nombreux de partout, les copains, ça fait plaisir. Vous connaissez la rengaine. Vous pouvez vous abonner, commenter, partager cette émission, évidemment, si vous passez un bon moment. Phil, entre autres, qui dit « J'ai du mal à comprendre ce que tu attends des gens qui lui ont donné un rôle pour sensibiliser le grand public sous un angle différent de CNews. C'est déjà pas mal. C'est pas à eux de faire sa carrière. Ils lui ont donné un rôle qui le réduit et contraint à ce rôle. Mais le but n'est pas de lui donner une carrière, mais la parole. » Écoute, c'est intéressant. Je suis content d'avoir ton son de cloche que je partage pas trop, parce que je trouve qu'il y a quand même eu un emballement, en fait. Enfin, comment dire, il y a eu une surmédiatisation de ce film par rapport à ça, où ils ont surjoué le côté « Ouais, mais en fait, regardez, on donne la chance à ce personnage qui va jouer un migrant, c'est une mise en abîme incroyable. Regardez comme on dénonce les horreurs, et nous, on est des gens bien. » pour que derrière la personne se retourne dans les chantiers, qu'apparemment elle passe des castings et qu'ils la reprennent pas. Donc je trouve que si on reste dans le symbolique, bah justement ça joue pas franchement en leur faveur. C'est de dire, vous avez fait du pognon en instrumentalisant la cause des migrants alors qu'en fait vous en avez rien à foutre. Et si d'ailleurs ce petit monde du cinéma en avait vraiment quelque chose à foutre, il y aurait plus de migrants dans le 16e arrondissement. Voilà, c'est toujours un peu le clicheton facile, mais malheureusement, c'est ce qu'on reprochait déjà à la gauche caviar il y a 40 ans, la gauche Guy Bedos et compagnie, c'est d'encourager la venue de personnes issues de l'immigration, mais pas dans les beaux quartiers. C'est-à-dire, on va les mettre à l'extérieur des villes, on va les mettre sous les ponts, on va tout faire pour les accueillir, mais pas à côté de chez nous. Donc voilà, c'est un cliché quand même qui a la peau dure, comme on dit. Donc voilà. Et Baldacat qui dit, s'il faut, le gars s'est fait plaisir, il s'est acheté un garage pour faire de la mécanique. C'est possible aussi, ceci dit. Restons prudents, c'est encore possible. Donc voilà un petit peu les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. On passe de ça à un autre scandale. Et alors là, par contre, je vais devoir poser une hypothèse qui fait peur. Ah là, je vous le dis, là, ça va pas rigoler. Je vous connais, vous êtes habitué à la rigolade. Là, on va parler d'un sujet chaud, d'une affaire toute récente. On va parler à mi-chemin entre le jeu vidéo, la technologie, le business, mais une crainte que l'on peut avoir dans le futur. Je voulais vous parler de ça, l'affaire Pokémon Go. Alors là, vous allez dire, merde, ce compu de Game Boy, vous êtes largué, vous inquiétez pas. Je n'ai jamais joué à Pokémon Go, je vois à peu près comment ça fonctionne, mais je vais pas vous expliquer le jeu, hein, c'est pas tant ça le sujet. Mais il y a eu une affaire qui vient d'éclater, qui est passionnante et quand même assez effrayante, qui devrait nous pousser à la prudence, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors, je me base sur un formidable article publié sur le site internet de Juste Milieu, qui est vraiment un média super. Non, je me suis fait chier à faire un article, je vous le montre, mais il y a plusieurs sources, hein, notamment Le Journal du Geek et JV Mag. Je pense que c'est... Ouais, JV Mag, c'est pas jeu vidéo, c'est JV Mag, je connaissais pas celui-là. Mais Le Journal du Geek, on connaît. Donc, de toute façon, il y a toujours des sources dans les articles Juste Milieu, évidemment, on est quelqu'un de sérieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Pokémon Go ? Alors, au départ, Pokémon Go, c'est un jeu sur téléphone, sur smartphone, en réalité augmentée. C'est-à-dire, le jeu utilise la caméra de votre téléphone, vous vous promenez dans la rue, ça filme la rue, et puis, par moment, il y a des Pokémon qui vont surgir, vous pouvez les capturer, comme le jeu Pokémon, moi j'avais à la Game Boy, à l'époque, je suis né en 94, j'avais la Game Boy, je capturais des trucs, des Tortank, des Pikachu, des prostituées, enfin plein de trucs, je capturais plein de trucs. Donc c'est un jeu vidéo sympa, vous capturez les Pokémon, vous les élevez, vous faites des combats, c'est formidable, puis vous les revendez. C'est plus ou moins comme gérer un parti politique, sauf que les Pokémon évoluent beaucoup plus. Donc Pokémon Go, c'est un jeu qui a été un succès extraordinaire. Ça a été joué par des centaines de milliers de gens à travers la planète, et le but, c'était de se promener dans la rue pour capter les Pokémon, et puis parfois vous pouviez rencontrer d'autres joueurs, faire des combats avec eux, mais c'était dans la vraie vie. Donc vraiment, il y avait un côté jeu vidéo à l'extérieur où ça poussait les gens à se promener, à naviguer dans le vrai monde, et à travers l'appareil photo de leur téléphone, eh bien ça simulait le jeu en réalité augmentée, quoi. C'était bon enfant. Jusqu'à présent, tout le monde disait « Mais c'est super, Pokémon Go, c'est formidable. En plus, ça fait sortir les gens de chez eux, ils se promènent. Vous pouviez trouver des Pokémon très très rares dans des endroits saugrenus. » On a appris après coup qu'il y a des marques qui s'en étaient servies pour attirer les joueurs dans leur point de vente. Je crois que ça avait été sur Burger King, il y avait une analyse comme ça qui était intéressante, qui était sortie. Bref, le jeu a été un phénomène international. Et là, on a appris quelque chose quand même de fou. Vraiment de fou. Si vous avez bien compris le principe du jeu, hein, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je ne suis pas vendeur chez Micromania, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a appris il n'y a pas plus tard que le 17 mars, donc 2 jours, des milliards de photos, des robots livreurs et des joueurs qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils construisaient vraiment. Je vous lis le début de l'article. Vous vous souvenez de l'été 2016, vous marchiez dans la rue téléphone levé, cherchant à tous les attraper en mode réalité augmentée. Vous avez une photo, hein, ça se présentait comme ça, Pokémon Go. Voilà. Eh ben, je vous lis la révélation du truc. Niantic, donc c'est la société qui a développé et exploite ce jeu, vient de lever le voile sur quelque chose que la communauté Pokémon Go commence tout juste à digérer. Depuis le lancement du jeu en 2016, les joueurs ont généré, à travers leurs scans et leurs missions de terrain, une base de données colossale de plus de 30 milliards d'images géolocalisées du monde réel. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? ça vient tout juste d'être révélé. Vous avez donc Niantic, qui est l'entreprise qui exploite ce jeu, qui, en fait, donc je ne sais pas d'ailleurs d'où vient exactement la révélation, mais qu'importe. On apprend que les images qui étaient utilisées par les téléphones, enfin, qui étaient prises par les téléphones des gens pour jouer au jeu, en vérité, ont enrichi une base de données, aujourd'hui de près de 100 milliards d'images, pour scanner le monde réel. Que tout était collecté, en fait. Tout était collecté pour être ensuite réutilisé, voire revendu. Ce sont des données qui vont être normalement revendues, c'est aussi ça. Hein. Je vous lis toujours l'article. Niantic Spatial, la filiale IA créée lors de la revente de la division gaming à Scopely en 2025, vient d'officialiser un partenariat avec Coco Robotics, une start-up spécialisée dans les robots de livraison urbains. Ces petits engins roses sillonnent déjà plusieurs villes américaines et européennes, et pour se repérer dans les rues avec une précision au centimètre près, ils utilisent exactement la carte que vous avez construite bénévolement en chassant des Pokémon. Donc, on a tout, tout ce qu'on aime dans le monde qu'on... Vous avez une exploitation des individus, gratuitement, hein, le fameux « si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit ». Bon ben Pokémon Go, le jeu de base, c'était gratuit, je crois que vous pouviez payer pour avoir des bonus, mais même pas sûr, mais au départ, c'était gratos. Et en fait, tout ce qui a été filmé depuis 10 ans environ a été conservé, collecté, et aujourd'hui a été revendu pour nourrir des services de livraison par robot, mais pas que, on imagine qu'il y a beaucoup d'autres usages. Alors, c'est un petit tremblement de terre, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent lésés en disant « mais finalement, on a travaillé pour vous sans avoir de rétribution derrière, donc merci le capitalisme ». Si vous me permettez mon petit instant marxiste, ça mange pas de pain, on est là-dessus. Hein. Donc évidemment, quand le poteau rose est découvert, comme d'habitude, on peut se dire « mais c'est scandaleux, c'est pas normal », même s'il y avait déjà de nombreux doutes hein, depuis la sortie du jeu vidéo, parce qu'avec un tel fonctionnement, on pouvait se douter qu'il y avait une tuile derrière. Bon, ben maintenant, c'est désormais officiel. Mais si je vous parle de ça, c'est pas pour faire 30 minutes sur Pokémon Go. Vous avez compris l'idée, c'est scandaleux, on pouvait s'y attendre, c'est une dinguerie, c'est une exploitation capitaliste des utilisateurs... Chacun mettra son interprétation dessus. Mais du coup, ça soulève une question encore plus vertigineuse, c'est quid ? Et quand je dis quid, faut se méfier. Hein. Quand je dis quid et quand je dis côte de bœuf, c'est les deux mots qu'il ne faut pas que je dise, parce que sinon ça va devenir agressif. Quid de l'intelligence artificielle ? C'est-à-dire que cette histoire de Pokémon Go nous démontre que des entreprises sous couvert de proposer un outil, en l'occurrence un jeu vidéo, qui va plaire aux gens, qui va être super sympatoche et regarder comme c'est pratique, et voilà. Et puis à un moment donné, tu te retournes et tu dis « merde, on s'est fait avoir ». Quid de l'intelligence artificielle ? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un tel scandale d'ici 2-3 ans. De comprendre que OpenAI, qui est derrière ChatGPT, que Google, qui est derrière Gemini, que toutes les grosses sociétés qui ont développé des solutions d'IA, ont juste développé des aspirateurs à données. Des aspirateurs à données pour renforcer leurs connaissances des individus, mais des connaissances qui vont être ultra, ultra pointues. Aujourd'hui, vous avez des gens qui expliquent à une intelligence artificielle toute leur vie intime, toute leur vie personnelle, toute leur situation médicale. Et autant je peux utiliser l'intelligence artificielle au quotidien pour gagner du temps sur des tâches, mais autant sur la vie personnelle, jamais de la vie. Parce que on peut comprendre qu'avec un tel scandale que celui de Pokémon Go, s'ils s'amusent à faire pareil pour l'IA, la période du Covid-19 niveau collecte de données, c'était pierre et vacances à côté. Hein. Vraiment. Donc, je voulais vous parler de cette histoire Pokémon Go parce qu'elle ouvre justement sur cette réflexion encore plus vertigineuse de l'IA, de dire plus que jamais, soyez prudents. Soyez prudents sur ce que vous dites à une IA, sur les données que vous proposez, parce que les données financières, médicales, intimes, personnelles, il y a de très, 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 très fortes chances qu'elles soient conservées, qu'elles soient collectées et qu'elles soient réutilisées. Quand on sait qu'aujourd'hui, cela fait peu de doute qu'un téléphone portable posé sur une table va être capable d'enregistrer ce que vous écoutez pour ensuite vous proposer des publicités adaptées, les données et les informations transmises à une intelligence artificielle, on n'imagine pas ce que ça peut faire. Enfin, vous prenez simplement Google, qui déjà a toute votre historique de recherche, donc tout ce que vous avez cherché sur Google, il va pouvoir en plus le coupler à ce que vous avez dit à Gemini, et ainsi de suite. Donc, c'est un truc effrayant. C'est un truc effrayant, et cette affaire de Pokémon Go met un petit coup d'eau froide sur la nuque pour ramener tout le monde, on va dire, dans le droit chemin. parce que vraiment, je prends l'apéro, je vous parie l'apéro qu'on aura ce genre de scandale d'ici 3-4 ans. D'ici 3-4 ans, on aura un scandale similaire où on comprendra que les grosses sociétés qui développent des intelligences artificielles, dans le même temps, nourrissaient des algorithmes, des choses comme ça, avec ces informations, pour avoir un fichage on ne peut plus complet sur les individus. Et les individus qui ont donné ces informations volontairement, avec leur consentement. Donc on ne pourra même pas se retourner en disant « mais vous n'avez pas le droit ». Mais attendez, c'est vous qui nous l'avez donné. Donc c'est assez effrayant, vraiment c'est assez effrayant, et je voulais vous parler de cette affaire de Pokémon Go justement pour faire un petit message de prudence. Et tu vois, je vous dis ça, mais je me le mets dans le museau parce que je travaille avec l'IA à peu près tous les jours. Et ben tu vois, ça met un garde-fou de dire ouais ben méfiance, hein. Méfiance parce que dès que ça devient sur des sujets chauds, voilà, c'est vrai que je me l'interdis, mais faut être prudent parce que c'est tellement facile, c'est tellement pratique. Que aujourd'hui, je voyais ces dernières semaines, il y a des articles qui se multiplient pour expliquer que de plus en plus de gens, par exemple, hein, donnent leurs symptômes à une IA en disant bon bah, je me lève, j'ai mal au cul, vous êtes ministre. Non. C'est pas ça, c'est sûrement une gastro, je suis pas médecin, donc voilà, des gens qui donnent des symptômes à une IA, qui donnent des détails très personnels, très intimes, des détails de santé et compagnie, et évidemment qu'il y aura le revers de la médaille. Ça, là je veux bien être complotiste sur ça, hein, très, très clairement. Donc voilà, cette affaire de Pokémon Go, attrapez-les tous, et bien on savait pas que c'était les données. Paf, allez cadeau cette blague. Donc voilà les amis. Ce que je pouvais vous dire sur cette affaire de Pokémon Go, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez une fois de plus sur ça. Il y a The Wayforo des Lions qui dit « Ton Windows enregistre tout ce que tu tapes sur ton clavier ». Ah bah si ça remonte aux États-Unis, je suis dans la merde. Hein. Parce que les recherches... non, je peux pas vous dire. Vous demanderez à Microsoft. J'en ai marre qui dit « Ouais, mais je fais en sorte d'être à peu près anonyme quand j'utilise l'IA pour des besoins médicaux. Tor plus compte mail créé sur Tor uniquement à ce besoin. » Tor, c'est quoi? C'est Dark Web, c'est ça, hein? Si je dis pas de conneries, c'est l'outil qui permet d'accéder au Dark Web, non? J'ai un peu bricolé Internet. Hein, j'ai une souris sans fil, hein, donc je connais. Je connais un petit peu. Fléau 93 qui nous dit « Quand les gens donnent leur information, c'est un peu leur problème, mais quand tu as des caméras piétonnes qui font des analyses d'IA sur ta tête, c'est grave. Ben, » je trouve que ça participe du même problème. Mais c'est un débat à avoir. Hein. Mestel qui nous dit sur Twitch « T'as déjà demandé à ton IA ce qu'elle peut te dire sur toi ?» Alors non, parce que... Parce que je trouve que c'est un truc complètement con dans la mesure où beaucoup d'IA de base sont configurés pour te dire des trucs sympatoches. Donc si tu veux, bon. Puis c'est vrai que je m'en branle. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en pensez, vous, tu vois. Donc non. Autant je regarde, parfois je peux taper avis juste milieu sur Google pour savoir s'il y a des trucs qui sont dits pas cool. Mais autant demander à l'IA, non, ça me fait peur. Hein. Non, t'imagines. Je vais apprendre que je suis gros et tout. Non, c'est diffamation. Hein. J'attaque qui après, moi? J'attaque qui en diffamation? Ah, donc voilà. Marcel Zorro qui dit Minority Report réel dans peu de temps. C'est intéressant. Le parallèle est super intéressant. Je suis d'accord avec toi. Et mon RVO qui dit hygiène numérique, désactiver l'IA dans Gmail, interdire aux applications d'utiliser le micro et la caméra et désactiver la localisation en permanence. C'est juste une base. Et au bistrot Toto. Et déjà, voilà, déjà quand t'as compris le pseudo, il nous dit « Et les vibros avec intelligence artificielle. » Voilà. Et ça, c'est mon public. ça, c'est la communauté juste mieux que toujours tout ramener au vibro. C'est très important. MLT sur TikTok qui dit « Est-ce que ça pose un problème vraiment grave ?» Eh bah, ben, c'est le débat. C'est le débat, cher ami. Justement, c'est aussi ça, juste mieux. C'est d'en parler. C'est d'en parler. Et puis, on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Et il n'y a aucun problème, évidemment. À titre personnel, je trouve ça assez inquiétant. Mais je suis content, voilà, que tu sois là. Et que, bah, si toi, tu trouves pas ça grave, bah, c'est ce qui fait la communauté. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc voilà un petit peu les copains, ce qu'on pouvait se dire. Et Phoenix Synopsis TV qui dit un vibro juste milieu. Écoutez, c'est une idée. On va pas le faire en recherche et développement, on va pas s'en occuper nous. Mais écoutez, si vous voulez fabriquer ça, vous me contactez. Tu sais, tout est à prendre. Quand t'es de droite, tu sais, moi j'ai un poster de Rachida Dati hein, au-dessus de mes chiottes. Hein. Et parfois, je confonds le sol et le plafond. Alors, tu vois, c'est déstabilisant chez moi. Hein. Je te dis, merde, elle est où la merde? Bon, t'as capté, quoi. Mais et qu'une dune 73 qui nous dit qu'a dit Marc Aurèle au sujet des Pokémon. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, voilà. Voilà un petit peu, les amis, sur ce sujet. On en reparlera, évidemment, de ce scandale de l'IA, potentiellement. Qui sait, un jour, qui sait. Qui vivra, verra, qu'est-ce que Pelorio. Kezak, évidemment. 17h42, on est dans les temps. Dites-moi, les copains, si j'ai oublié certains sujets, parce que demain, il n'y a pas d'émission. Demain, il n'y a pas d'émission. Pourquoi ? Parce que je prends la route. Direction Brive. Le spectacle Zinzin, vous le savez. Ça fait 3 semaines sans date. Je suis content. J'ai hâte d'y retourner. Parce qu'il va y avoir, évidemment, du nouveau. Avec toutes ces conneries, on est obligé d'adapter, évidemment. En plus, à Brive, on n'est pas loin de chez François Hollande. Et on n'est pas loin de la Corrèze. Donc, rendez-vous au Cabaret Gaillard à 20h pour le spectacle Zinzin. Il reste encore quelques petites places, liées en description. Les amis, je vous donne le lien direct de la billetterie pour ceux qui n'auraient pas encore pris leur place. Et puis, bien sûr, en plus, là, on est dans les meilleures conditions du monde parce que c'est dans un cabaret. Ils ont un bar, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, on va passer un beau spectacle. En tout cas, tout sera fait pour, j'espère. Et on va surtout passer un moment ensemble, les amis. Partager tout ça. Donc, ça va être chouette. Et puis, si vous n'avez pas le lien, vous pouvez le retrouver. Zinzin, Brive ou juste mieux Brive. Et vous aurez automatiquement les liens sur Google, les amis. Voilà. Ça blague dans le chat. Il y a Mort98 qui dit « Ça le dégoûterait, mais un poster de Knafo pour Rémi, ce serait top. » Non. Ça va. Ah non. Pas tous les jours, Sarah Knafo. Vous le savez, après, j'ai des problèmes. Mais, non, mais en plus, attends. Non. Ne me lancez pas. Elle est déjà sur tous les plateaux. Elle vient de prendre une branlée. Elle était sur BFM. Demain matin, elle est chez Apolline de Malherbe. Mais attends, c'est un morpion médiatique ou c'est quoi le projet là ? Vous pouvez pas nous laisser reposer 2 semaines avec Sarah Knafo elle vient de prendre 10%. Elle vient de prendre une volée. Et ils nous la refoutent à toutes les sauces, putain. C'est dingue, hein. Ça ne s'arrêtera jamais, en vérité. Attends, ça m'a... Me relancez pas là-dessus, les copains. Je vais filer pour ce soir, les amis, évidemment. Parce que demain, la route, eh oui, demain, vroom vroom, 6h du matin. Eh oui, si on veut éviter les bouchons, c'est... arriver à midi, ça c'est très important. Pourquoi ? Manger, il n'y a pas de piège. Donc, voilà, évidemment... On n'oublie pas, les amis, vous, pour tous ceux qui ont vu la farce tranquille hier, n'oubliez pas le sondage citoyen sur les municipales à Paris, justement. Qui voyez-vous pour le second tour ? C'est le deuxième sondage lancé par l'Institut, juste milieu, l'Institut de sondage citoyen. On est en train de mettre tout ça en place. Il y a celui sur l'aide à mourir, euthanasie, sans limite. Plus de 1500 personnes déjà qui ont répondu, donc ça fait plaisir, vraiment, vous êtes très nombreux, les copains. Merci à vous. Lien en description sous cette vidéo YouTube pour participer à ce sondage citoyen concernant les municipales. Pour l'instant, les sondages sont sur le site internet de Juste Milieu et on est en train de travailler sur la plateforme. Il y aura très bientôt une plateforme complète là-dessus. On vous tient au courant, évidemment, des développements de tout. Ça fait partie des chantiers, voilà, qui sont dans l'ombre. Hein. On ne vous raconte pas tout, mais il y en a des choses. Les copains, donc je compte sur vous pour voter, relayer. Résultat dans la farce tranquille la semaine prochaine pour le sondage municipal. Et la semaine prochaine, je le rappelle, hein, je prendrai le commentaire le plus liké sous la vidéo de l'épisode 230 de la farce tranquille, celui d'hier, le commentaire qui propose une idée. Je prendrai vos idées. L'idée la plus likée, ben, ce sera le sondage de la semaine. Comme ça, on construit ça ensemble. Voilà, les amis, je vous abandonne là-dessus. On va se retrouver lundi, juste bistrot, lundi. Et juste chaud, épisode 4. Voilà, c'est annoncé. Inscrivez-vous si ça n'est pas déjà fait à la newsletter juste au milieu. Vous le savez, c'est le rendez-vous toutes les 3-4 semaines. J'avoue que si j'avais dit 2, s'il y a du retard, c'est ma faute. Les semaines sont chargées, je fais au mieux. Et c'est vrai que c'est plutôt toutes les 3-4 semaines, mais avec voilà, un rendez-vous que pour les zinzins des plus zinzins sur la newsletter juste au milieu. C'est pas publié sur YouTube. Je mets qu'un extrait, on va dire, non censurable. Et le reste, c'est que du plaisir, que de la blague pour vous proposer un bon moment. Ça, c'est le juste show. Voilà, c'est même pas YouTube, c'est même pas Twitch. C'est que sur la liste juste au milieu. Épisode 4, il y aura de la chanson. Il y aura de la blague, j'ai fini d'écrire mon truc, il y aura de quoi faire. Voilà, on se retrouve lundi avec ce joli programme, les copains, et surtout, mais oui, où avais-je la tête ? Je vous avais parlé d'une vidéo, et je finis sur une magnifique note. Voilà, je pouvais pas finir pas loin de Sarah Knafo. On finit sur une magnifique note. Je vous ai parlé d'un interview que j'ai fait il y a pas longtemps, je sais, le temps va vite, je sais même plus, je crois que c'était la semaine dernière. Oui, c'est ça. Avec un individu que j'ai eu la chance de rencontrer. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Et je suis très heureux. C'est la première fois que je le reçois sur Juste Milieu. Et vraiment, vous avez peut-être vu son nom. La vidéo est déjà elle est déjà en première sur YouTube. C'est-à-dire qu'elle sera diffusée dimanche à 17h. Ce dimanche à 17h. Mais je suis très heureux parce que vraiment, c'est le virage de Juste Milieu en ce moment. Vous le savez, on parle d'actu. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. On continue à décrypter les scandales, les affaires, tout ce que vous voulez. Mais j'ai envie de vous amener vers un peu plus de positif, de faire de mon possible pour vous proposer du bonheur, proposer des choses sympas. Voilà, qu'on garde la banane malgré tous les sujets qu'on évoque. Et avec cette personne, je suis très heureux parce que ça marque, ça insiste sur ce tournant, ce virage d'aller vers des sujets plus positifs de temps en temps pour vous aider un peu au quotidien. En tout cas, j'espère à vous donner quelques petits outils. Et cette personne, je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de Juste Milieu, qui suivait la chaîne, donc j'étais très honoré. Et vraiment, c'est un ami. Voilà, c'est un ami, je vous le dis, je l'apprécie énormément. Je suis très heureux de le connaître. C'est Paul De Wendre. Paul De Wendre, Paul De Wendre, me diraient nos amis belges. Alors, peut-être allez-vous me dire, mais qui est donc Paul De Wendre ? Eh bien, si je vous dis, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, eh bien, c'est l'homme derrière ce spectacle incroyable. 20 ans de tournée, 2 millions de spectateurs, et voilà, qui sera sur Juste Milieu pour parler de ces sujets-là, le bonheur au quotidien, le couple, la psychologie, les petits objectifs de vie. Voilà, je suis très heureux, vraiment, vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte, les amis, ce sera dimanche à 17h, rendez-vous sur YouTube. Et puis, voilà, si vous avez envie de soutenir ce petit virage qui est pris, de regarder la vidéo, c'est déjà ça le plus important, regardez la vidéo, posez-vous, profitez de cette vidéo pour couper un peu avec toutes les folies de notre monde. Et j'ai hâte de vous proposer. En tout cas, j'ai passé un incroyable moment. Vraiment, j'étais très heureux. Et voilà, avec l'ami Paul que j'embrasse, que je salue. Rendez-vous dimanche, les copains. Voilà, je vous abandonne sur cette belle nouvelle. On se retrouve lundi, les amis. On débriefera la vidéo. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en avez pensé. Faites vos devoirs. Voilà, c'est les devoirs du dimanche. Une vidéo sympa sur un peu plus de bonheur au quotidien. On en parle lundi. Voilà, à lundi, les copains. Vive la rigolade, vive la France. Rendez-vous à Brive pour ceux qui seront là. Et puis tout le monde, à lundi. Plein badin, en pleine forme. Je vous embrasse.
Mais ça l'appelle pour dire que je te kiffe, ma belle. T'es parti de cœur en l'air. Dehors de 1 en hiver. Chanson, chanson. Tu reviennes pas, tu reviennes pas. Tu reviennes pas, tu reviennes pas. Chanson, chanson. Tu reviennes pas, tu reviennes pas. Tu reviennes pas. Bye bye belle-mère, promesse à la mer. Bisous dans le cou, petit regard voyou. Ta main attire, efface les souvenirs. Caprice est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin. Surprise, y'a rien. Sans violence, plus violent d'amour symphonique. C'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu... Chanson.